Bien. Alors, nous commençons aujourd'hui un atelier nouveau que j'ai appelé poterie, faïence et autres porcelaines pour, j'allais dire, vous donner déjà une première idée de ce dont nous avons parlé. C'est un atelier donc sur l'art de la céramique. J'ai pensé que c'était un atelier important parce que la céramique, c'est un domaine à la fois très populaire et très inconnu. C'est assez bizarre d'ailleurs. Parce que la céramique, on y a affaire en permanence tous les jours, vous comme moi. Puisqu'évidemment, nous mangeons de la céramique. Mais la céramique, c'est bien d'autres choses. Hein. Ce n'est pas que la plâtrie qui sert au dîner ou au déjeuner. La céramique, c'est un matériau qui est vraiment utilisé en permanence par nous tous, toute la journée. Donc c'est un matériau on ne peut plus proche de nous. Et en même temps, je crois qu'on a un peu de mal à l'appréhender. Je crois qu'il est bien rare que nous n'ayons pas chez nous, sur des murs, quelques assiettes, ou sur des commodes, quelques vases, faits en différentes techniques. Mais souvent, ces techniques, on les ignore assez. On a du mal à appréhender ce domaine qui pourtant nous est tellement proche. Ben, le but est de commencer à débroussailler ces questions. Alors, la céramique, vous le savez, c'est une invention très ancienne. Vous savez à quel moment la céramique a été inventée, c'est-à-dire l'utilisation de la terre, finalement. Hein. C'est quand ?
Néolithique.
Alors, au néolithique. Néolithique, effectivement, c'est une période de la préhistoire qui est une période qui correspond à ce qu'on pourrait appeler l'invention de la céramique. C'est au néolithique qu'on a commencé à utiliser la terre et à la mettre en œuvre pour... une fois cuite, qu'elle puisse être utilisée, notamment pour toutes sortes de fonctions, notamment culinaires. Hein. Alors, on ne va peut-être pas, durant ces séances, parler de toute la céramique dans le monde entier depuis le néolithique, parce que ça ferait peut-être beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'on va plutôt... Je pense que je n'ai pas encore envisagé la totalité de ces séances, même si j'ai en tête un certain nombre de choses. Hein. Tout n'est pas complètement déterminé. Mais je pense que nous allons surtout parler, et peut-être même exclusivement, de la céramique que je qualifierais de, entre guillemets, « savante hein, », entre, grosso modo, le Moyen-Âge et le 19e siècle en Occident. Hein. Essayez déjà de voir un peu, de se débrouiller avec ces questions-là. Ça ne veut pas dire que nous ne ferons aucune incursion dans d'autres domaines, dans d'autres époques et sur d'autres continents, mais enfin, a priori, c'est quand même ce sur quoi nous allons essentiellement nous baser. Hein. Alors, je vous rappelle, parce qu'on le fait toujours, bonjour, bonjour. Ah ben, vous avez raté l'introduction, c'est vraiment... Oui, oh, c'est très grave.
On faisait la vaisselle.
Ah ben, vous avez fait ça. Ben oui, on fait la vaisselle. Mais alors, justement, je viens d'indiquer que ça n'était pas que la vaisselle. Et voilà. Bien. Voilà. Alors, je vais simplement vous rappeler, vous savez que je le fais toujours dans la première séance, on ne le fera plus après, hein, mais dans la première séance de chaque atelier, je vous rappelle nos petites règles que vous connaissez par cœur. Nous n'hésitons pas à prendre la parole sans la volubiliser. Nous suivrons une certaine méthodologie et nous limiterons nos commentaires esthétiques subjectifs qui n'ont pas trop... dans des cours d'histoire de l'art, dans des ateliers d'histoire de l'art, nous n'utilisons pas Internet, et si nous savons tout, nous laissons peut-être ceux qui ne savent rien ou peu s'exprimer d'abord. Voilà, grosso modo, quelles sont nos petites règles, mais que, encore une fois, vous connaissez très bien. Alors, je vous propose qu'on commence la première partie de cet atelier, qui va en connaître deux, pour que l'on s'intéresse d'abord à... un certain nombre de techniques liées à la céramique. Je pense que vous avez chez vous toute une série d'éléments du quotidien en céramique, et je pense que quelquefois on a du mal à les identifier, à savoir quelle est la technique, comment même la dire, cette technique, comment préciser ce dont il s'agit. Alors on va regarder là une douzaine, je crois, de diapositives avec des objets en céramique, et on va essayer de voir quelle est la technique correspondante. On commence par ceci. Voilà. Alors d'abord, on peut commencer effectivement par définir la forme. Je vous précise d'ailleurs tout de suite que la deuxième partie de cet atelier nous permettra justement d'évoquer des questions touchant à la forme des pièces, d'un certain nombre de pièces. Là, effectivement, c'est d'ailleurs pas très compliqué, c'est un pichet. On peut peut-être lui donner un autre nom, d'ailleurs. Pardon ? Alors, voilà. Alors, ce que vous dites n'est pas faux en mettant une aiguère, c'est grosso modo la même chose, hein, mais ça peut être plus allongé et on va dire un peu moins basique. Vous voyez, une aiguère, c'est ça, mais en un peu plus contourné. Hein. Une aiguère, ce sera un petit peu plus travaillé. Hein. Mais une aiguère n'est jamais finalement une sorte de pichet, un pichet plus. Peut-être d'ailleurs un autre nom encore peut être donné à ce genre de pièce.
Une cruche.
Un broc aura peut-être plutôt une forme, encore que tout se discute, hein, mais une forme plus.
Plus grand, comme ça.
Conique. Voilà, conique, merci. Cruche, pichet. Aiguière pour des cruches ou des pichets un peu plus chics, on va dire. Mes cruches ou pichets correspondent très bien à ce genre de pièces. Bien. Mine de rien, est-ce que vous avez une petite idée d'une datation pour cet objet ?
Moyen-Âge.
Ok. Oui. Et une idée d'une période du Moyen-Âge ?
Non.
Tôt. Mais encore. Moyen-Âge, c'est 10 siècles. Alors, 5e siècle. Plutôt 5e ou plutôt 15e, puisque Moyen-Âge, ça va du 5 au 15e.
Plutôt 15e.
Bon, donc, plutôt fin du Moyen-Âge, alors. Hein, plutôt. Bien. Ok. Bien. Ok, on verra ce qu'il en est dans une seconde. Maintenant, quelle est la technique qui a permis de réaliser une pièce comme celle-là? Comment est-ce que, sur le plan technique, maintenant que nous avons caractérisé le type d'objet que nous avions sous les yeux, maintenant que nous savons grosso modo que c'est une pièce qui date du Moyen-Âge, plutôt de la fin semble-t-il, est-ce qu'on peut caractériser le type de technique qui a permis de réaliser ce genre de...
Autour.
Alors, entièrement autour.
Non, parce que la hanse, elle est collée après.
Voilà, c'est-à-dire que, effectivement, c'est une pièce qui a été réalisée autour, mais la l'anse a été effectivement collée après, puisque, effectivement, autour, on ne pourrait pas le faire.
Les décors aussi.
Pardon ?
Puis les décors.
Oui, absolument. Les décors sont effectivement des décors qu'on pourrait qualifier de décors rapportés. Oui. Les décors sont en effet des sortes de langues de terre qui ont été rapportées, hein, bien, appliquées, on peut également dire souvent le mot appliqué peut s'appliquer justement aussi pour, par exemple, les tissus, hein, évidemment. Tout à fait juste. Maintenant, vous voyez qu'il y a sur cet objet en céramique, sur ce pichet, sur cette cruche, au-delà des décors, je dirais, volumétriques, des décors colorés, une brillance.
Vernissé.
On peut utiliser un autre mot d'ailleurs.
Émaillé.
Ouais. On peut utiliser encore un autre mot. Glaçuré. Hein. Ouais. Glaçuré. Très bien. Donc autant de termes effectivement qui correspondent à ce genre de technique.
Il semble que l'intérieur ne soit pas de la même couleur.
C'est possible, effectivement, on a l'impression...
C'est brut à l'intérieur.
Alors voilà, peut-être que l'intérieur n'a pas été, effectivement, glaçuré. Hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être une couverte extérieure, une glaçure extérieure, alors que l'intérieur n'a peut-être pas été glaçuré, tout simplement. D'ailleurs, la pièce elle-même, la matière de cette pièce, de cette cruche, c'est quoi? Parce qu'on a mis une glaçure, hein, effectivement, hein, un vernis... vous avez donné les différents mots, mais sur quoi? Oui, alors sur de la...
De l'argile,
effectivement, cuite, oui. Voilà. Et donc, la base même, effectivement, de la pièce, c'est de l'argile, c'est de la terre, hein, effectivement, et donc couverte d'une glaçure plombifère. Très bien. Alors, ce genre de pièce, alors, je vais tout de suite vous montrer la... Le cartel correspondant, hein, date en fait de. En l'occurrence, on est au début du 14e siècle. Hein, et puisqu'il s'agit, vous l'avez dit, hein, de terre cuite, effectivement, glaçurée, on a besoin de terre cuite glaçurée. Souvent, d'ailleurs, on utilise pour ce genre de choses le terme aussi de poterie glaçurée ou vernissée. Hein. Pour ma part, je préfère le terme de glaçure, mais bon, ça vient au même. Et émail n'est pas mal non plus, hein, tout ça est juste. Hein, voilà. Mais c'est une glaçure plombifère qui recouvre la pièce. Bien. Alors, premier exemple d'une... Pardon ?
Il y a un problème, il y a 17e et après il y a 1320.
Pardon, vous savez, quelquefois je fais des copier-coller pour faire. Et là, j'ai oublié d'enlever les deux. Voilà. Pardon ?
Et sans relire.
Quelquefois je relis, mais quand on surlit, on ne voit pas ce qu'on a fait. C'est ça le problème. Donc c'est 14e et pas 17e. C'est bien 14e. Hein. On est donc bel et bien vers 1300. Il faudra corriger Michel sur le. Une deuxième pièce. Alors là, au niveau de la forme, ce n'est pas trop compliqué. Je pense qu'on va y arriver sans tout faire. C'est un plat. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez maintenant, puisqu'on a pris cette habitude de parler de la forme, mais également de parler du décor. Comment est-ce que vous parleriez du décor?
Ça a été peint, le décor.
Oui.
Déjà à la main.
Déjà oui. Glaçuré.
Oui. Donc c'est effectivement un décor qui a été peint. On reviendra d'ailleurs aux questions techniques tout à l'heure, mais si on voulait décrire le décor, qu'est-ce que l'on dirait?
On voit un paysage, une scène, on dirait qu'il y a une...
Un cerf,
on dirait qu'il y a un cerf. C'est pas Artémis?
Alors on voit effectivement un paysage, ouais. On voit un cerf.
Ouais. Et puis on voit pas si c'est un homme ou une femme, avec un arbre.
Ouais. On voit effectivement un arbre.
Ouais. Il y a un personnage.
Il y a un personnage. Est-ce que vous voyez ce qui tient? C'est dur. Hein. De près, ça va. De loin, je regarde si de loin, on peut deviner.
On hésite entre...
Pardon.
Une lyre.
Il tient une lyre.
Hein. D'accord.
Il tient une lyre. Effectivement, ça se voit, mais enfin, faut avoir de bons yeux. Donc, on a effectivement un personnage ici, assis, devant un arbre. Hein. Il tient une lyre, que vous devinez peut-être là. Il y a... un cerf, il y a un autre animal là que vous pouvez dire, alors là vous en voyez
un pan,
exactement. Alors il y a plein d'autres animaux, à votre avis c'est quoi le décor, la scène?
C'est une scène mythologique,
why not, pourquoi pas, pardon,
champêtre.
Alors une scène champêtre, mais effectivement avec un personnage et des animaux tout autour, le personnage tient une lyre, voilà, c'est le mythe d'Orphée. Vous connaissez cet épisode de l'histoire d'Orphée?
Oui, tranquille.
Orphée, c'est qui?
C'est un demi-dieu.
C'est une sorte de demi-dieu.
Oui.
Ou de héros terrestre, mais qui va, j'allais dire, frayer avec les dieux.
Et qui est doué par le chant et la musique pour pouvoir apprivoiser les animaux.
C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est un poète. Un poète, Orphée. Un poète mythique, hein. Et Orphée, effectivement, était un tellement bon poète. Et être poète dans l'Antiquité, c'est pas simplement faire des poésies. Hein. C'est les déclamer, les chanter et s'accompagner généralement d'un instrument. Hein. C'est ça, un poète. C'est pas simplement faire des vers. Et effectivement, sa poésie était tellement belle, et la façon qu'il avait de l'interpréter aussi, qu'il arrivait même à charmer les animaux. Et c'est ce que vous voyez là, c'est Orphée charmant les animaux. Enfin, c'est ce que vous voyez, vous devinez, parce que de loin, c'est pas évident. Vous remarquez que donc la scène est figurée là au centre. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre au-delà de cette représentation
décoré.
Pardon.
C'est très décoré autour.
Très décoré autour, et de quelle manière?
Des décors très comme sur les tapisseries de la même époque.
Absolument. Il y a des décors que vous qualifiez évidemment de très fins, comme sur les tapisseries à l'époque. On a pu le voir dans un atelier. Ça devait être l'année dernière. Je sais plus. Ça va si vite. Ou la saison dernière en tout cas. Ouais. Vous savez comment on les qualifie, ces décors? Je ne sais pas si on en avait parlé.
Ça s'appelle le décor à la Bérin.
Voilà, on a ça, le décor à la Bérin. Et vous pouvez peut-être nous dire pourquoi, d'ailleurs. Non.
Je crois que c'est une manufacture, mais je ne suis pas sûre.
Alors, Bérin, quelqu'un connaît
Non.
Bérin était un ornementaliste français du XVIIe siècle, qui a fait des cartons de tapisserie, mais qui a fait également des projets pour des boiseries, etc., et qui faisait des ornements de ce genre. C'est-à-dire ces décorations, vous qualifiez tout à l'heure, de très fines, hein, avec des espèces de filets comme ça, qui sont toujours disposés symétriquement. Hein. Si vous coupez le plat en deux, vous avez à droite ce que vous avez à gauche, mais symétriquement. Hein. Ça, c'est typique des décors de Bérin. Avec, vous le voyez, des sortes de petits, à la fin de petits bouquets, de candélabres, de socles, de consoles, avec des animaux fantastiques, des personnages. C'est ça, les décors à la Béra. Hein.
Et puis, il est monochrome.
Alors, là, en plus, c'est monochrome. Hein. Quelquefois, il y a des décors à la Béra qui sont polychromes. Mais là, vous avez raison, c'est une pièce monochrome. Donc, les décors à la Béra, c'est ça. Gardez ce nom parce que décors à la Béra, c'est hyper fréquent dans la céramique, notamment en France. Par exemple, à l'époque, je qualifierais de précis, parce qu'on n'a pas encore vu de quelle époque ça date. Donc, voilà, l'idée. Bérin est un ornoriste qui a, dont, si vous voulez, le travail a eu un tel écho que ce type de décor, alors, il y en a une foison, hein, on appelle ça effectivement des décors à la Bérin. Avec, vous voyez, ce qu'on appelle la cartouche centrale, hein, qui est environnée de ces petits décors symétriques, avec des petites dés, toutes sortes de choses. Voilà, c'est un décor à la Béra. Comment est-ce qu'on appelle d'ailleurs la partie centrale d'un plat ? Parce que c'est important de dire quand même où se trouve ce décor à la Béra.
Dans le fond.
Oh, dans le centre. C'est une manière de... Dans le centre, ouais, tout ça c'est bien. On peut dire dans le bassin. Le bassin, c'est la partie basse, si vous voulez, d'un plat. Alors, le bassin, c'est aussi une forme de plaie. Hein. Un bassin, c'est un bassin. Hein. Mais dans un plat, plus ou moins creux, hein, le bassin, c'est la partie creuse, justement. Hein. Et comment est-ce qu'on appelle la partie, pardon ?
La périphérie, c'est l'aile.
Alors, on peut dire l'aile, absolument. Il y a un autre mot également qu'on peut utiliser. Le marli. Le marli ou l'aile, c'est effectivement la partie périphérique. Donc vous avez là le marli, qu'on peut appeler aile éventuellement, et au centre le bassin. Bien. Donc là, on a déjà pas mal décrit la pièce, un plat décoré à la Béra, avec un décor monochrome. Le décor à la Béra est sur le bassin. Le marli est décoré d'un décor très inspiré d'ailleurs également de Béra. Hein. Vous voyez toujours ce genre de fleurons symétriques. Quelle technique là ?
Il y a
deux cuissons. Oui. Alors, pardon, d'abord, oui, on peut commencer. Pardon.
Ça pourrait pas être un moulage.
Alors, effectivement, au départ, c'est certainement une pièce qui est moulée. Hein. C'est-à-dire que on n'a pas là une pièce tournée, comme on a vu tout à l'heure pour les pichets qu'on a rajouté l'anse. Hein. C'est une pièce moulée. Hein. Première chose, moulée à partir de qu'est-ce qu'on moule ? De l'argile. De l'argile, une fois. Hein. C'est donc de l'argile moulée. Seulement, l'argile, c'est pas comme ça. Une fois qu'on a moulé la pièce, c'est... Bah, vous avez tous vu de l'argile, hein, c'était une terre teintée naturellement, plus ou moins ocre, plus ou moins rouge, plus ou moins clair, plus ou moins foncé, etc. Hein, c'est tout ça. Donc, une fois qu'on a moulé sa pièce, on fait quoi ? Une cuisson. Comment est-ce qu'on appelle, d'ailleurs, cette cuisson qui est une cuisson qui fait que... Parce que quand vous avez moulé votre plat en argile... Bon, il est moulé, il commence à être un peu dur, mais en fait, il est quand même très mou. Hein. Bon, donc, vous faites cuire une première fois. On appelle comment cette première
le
cuisson ?
Le biscuit, non ?
Alors, ça permet d'avoir ce qu'on appelle le biscuit, mais cette cuisson, elle a un nom que je trouve bien amusant, et qui dit, je trouve bien ce que ça veut dire. La première cuisson, qui est la cuisson qui permet, une fois qu'on a pris son moule, qu'on a mis la terre dans son moule, qu'on a moulé, qu'on a enlevé le moule, et qu'on a donc notre plat... mais qui est encore un peu mollasson, si vous voulez, il va falloir cuire ce plat, qui n'est pas cuit, hein, pour qu'il devienne dur, hein, et que ça devienne ce qu'on appelle un biscuit. Hein. Comment est-ce qu'on appelle cette première cuisson, donc ?
Une première cuite.
Pardon ?
Une première cuite.
C'est pas la première cuite.
Si ça avait été un vrai, oui. C'est
on appelle ça, alors, peut-être vous ne savez pas, mais je trouve qu'on ne l'utilise pas très souvent, mais quand on l'utilise ? Scientifiquement, c'est le nom qu'on utilise. Et je trouve que le mot est assez amusant. On a bien sûr une cuisson de dégourdi. Il faut un peu au départ voilà, faire que, une cuisson dégourdi. Il faut dégourdir le truc. Quoi. Il est encore un peu adolescent, il faut le dégourdir. Alors, une fois qu'on a fait la première cuisson, cuisson dégourdi, on a donc le biscuit qui est une fois solide, c'est-à-dire un plat, hein, qui est en gros ocre rouge, plus ou moins clair, etc. Bien. Et qu'est-ce qu'on fait après ?
On
trempe dans quoi ?
Dans un bain
de d'émail. D'émail de quelle couleur ? D'émail de quel type ?
De blanc. Blanc.
D'émail blanc. Et cet émail, il est fait à partir de quoi ? Pardon ? Pas kaolin. Pardon ?
De craie.
Non. Une matière minérale et...
C'est un silicate.
Le gypse. Non. Un minerai, en fait.
De l'étain.
De l'étain. Ce qu'on appelle de l'émail stannifère. Parce que c'est ce qui donne cette couleur blanche opaque. Donc, une fois que vous avez votre biscuit, c'est-à-dire votre plat ocre, mais dur cette fois, il a été cuit une première fois, hein, vous allez plonger ce plat en terre cuite, hein, vous pourriez garder comme ça d'ailleurs, hein, ça ferait de la terre cuite. Hein, vous le plongez dans de l'émail stannifère. Donc, il se couvre de blanc. Et là, vous faites quoi? Alors, vous pouvez effectivement le recuire. Très bien. Et une fois que vous l'avez recuit, qu'est-ce que vous faites?
Après, c'est pas la main.
Vous peignez. Hein, vous peignez par-dessus, hein, sur la pièce, le biscuit couvert d'émail stannifère cuit, vous repeignez par-dessus. Et une fois que vous avez peint par-dessus, vous faites quoi? Vous faites recuire pour que ce que vous avez peint
se stabilise
et, à vrai dire, s'imprime dans l'émail stannifère. Qui recuit, va re-ramollir et permettre à ce que vous avez repeint par-dessus de se fixer dans l'émail stannifère.
Et les températures de cuisson sont différentes.
De cuisson sont différentes, effectivement. Ça, c'est une technique, mais il y en a une autre.
On peut peindre sur l'émail qui n'est pas cuit.
Exactement. On peut peindre sur l'émail qui n'est pas cuit. En fait, vous avez deux solutions. Une fois que vous avez votre plat en biscuit, vous plongez dans votre émail stannifère, vous obtenez donc votre biscuit tout à fait blanc, si j'ose dire. Il y a deux solutions. Soit vous faites ce que vous avez dit tout à l'heure, vous cuisez, et puis voilà, l'émail dure, etc. Soit vous laissez sécher. Et c'est sur ce biscuit émaillé, mais séché, et non pas cuit, que vous allez peindre. Et c'est ça que vous allez mettre dans le four pour cuire. Mais ce ne sera jamais que la deuxième cuisson.
Oui.
Et il y a déjà de la peinture. Vous voyez ce que je veux dire ? Un décor peint, je veux dire. Le problème, c'est que là, vous allez devoir faire une cuisson assez forte. Et les couleurs que vous avez sont des couleurs qui doivent être un peu résistantes. Hein ? C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le grand feu. Parce que, un grand feu, quoi. Donc, c'est vrai, il y a deux techniques. La technique grand feu, que je viens d'évoquer, émail salifère, on laisse sécher, on peint, on cuit, carrément. Mais il y a l'autre technique, la première que vous avez évoquée, qu'on appelle la technique du petit feu, où le biscuit couvert d'émail salifère est donc cuit une première fois, puis on met des couleurs, on cuit une autre fois, on peut même cuire encore plusieurs fois, sur les couleurs qu'on met qui peuvent être des couleurs plus délicate, plus légère, qui permet plus de nuances. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qu'on appelle le petit feu. Parce que c'est des cuissons plus douces, plus légères. Mais qui peuvent être plus nombreuses et répétées. C'est bon ça pour vous ? Alors, à votre avis, ça, ce serait quoi ? Ce serait une pièce de grand feu et de petit feu ?
Je dirais petit grand feu.
Petit ?
Oui. C'est délicat, il y a des tas de nuances quand même.
Mais comme c'est monochrome, peut-être c'est grand feu, comme il n'y a qu'une teinte.
Alors grand feu, petit feu. Parce que là, on a un peu les deux solutions.
On est partagé.
Oh, ah oui.
Je sais pas à quoi ça se voit.
Oui.
C'est une des choses qu'on va apprendre à connaître.
Comment on peut le voir?
C'est du grand feu. Parce qu'évidemment, c'est polychrome, c'est monochrome, et ce genre de bleu qui résiste bien à une cuisson assez forte, hein, c'est du grand feu. On va voir des choses en petit feu, et au bout d'un moment, alors, quelquefois on peut hésiter, hein, il y a des pièces qui sont un peu compliquées, hein, mais quand même, en général, on arrive au bout d'un moment à reconnaître à peu près le grand feu du petit feu, même si on peut se tromper, même si je connais parfois des gens assez spécialistes qui se trompent aussi, hein, ou qui hésitent. Mais là, c'est une pièce de grand feu. D'ailleurs, On a parlé du petit feu, du grand feu, mais on n'a pas parlé de quel type de technique de céramique il s'agissait.
C'est de la faïence.
C'est de la faïence. Hein, parce que on a parlé tout à l'heure de terre cuite bien sûrée, vous vous rappelez. Hein. Là, c'est de la faïence. C'est de la faïence de grand feu. Voilà. Donc, vous connaissez maintenant la technique. On laisse l'émail sanifère sécher, on peint par-dessus le décor, on cuit à grand feu et on obtient ça.
Quelle est la différence entre faïence et terre cuite ?
La terre cuite, c'est la base de la faïence, en fait.
Ah bon,
c'est-à-dire si, finalement, la terre cuite, c'est le biscuit. Mm-hmm. Vous voyez ? C'est le biscuit.
Mais on doit faire quelque chose sur le biscuit, autrement, ça, c'est pour eux.
C'est vrai. Simplement, les terres cuites, en général, peuvent être poreuses, qu'elles ne sont pas utilisées, par exemple, pour de la plâtrie.
Ben oui.
Et effectivement, la terre cuite reste assez poreuse. Si on veut que la terre cuite soit utilisée, on la couvre d'une glaçure, et ça donne la terre cuite glaçurée, émaillée, que nous avons vu tout à l'heure.
Et là, elle est parfaitement imperméable.
Voilà, imperméable. D'accord. Mais il y a des terres cuites, par exemple, si une statue est en terre cuite, elle n'a pas besoin, elle peut être en terre cuite. Une idée de date.
17e.
Okay. Est-ce qu'on a une petite idée ? C'est pas le but de la séance d'aujourd'hui, mais on commence à débroussailler un terrain en friche sur lequel on a plein de choses à voir. Hein. Mais est-ce que vous auriez une idée de lieu où on aurait fait ce genre de choses ?
La région Delft.
Pardon ? Delft ? C'est ce que vous disiez aussi, je crois ? Oui.
La région de Marseille.
Ah, Marseille. Alors on passe du nord au sud, là. Hein. Alors plutôt Rouen.
Ah oui,
Rouen, c'était à cause du quoi d'ailleurs
Rouen, bah
ouais,
bleu.
Du bleu. Vous raison. Rouen, le bleu de Rouen est fameux. Vous avez raison, le bleu de Rouen, c'est une chose importante. Hein. Donc, je vois qu'il y a une école du Nord, Delft, une école du Sud, vous disiez Marseille, c'est ça?
Oui, la région de Marseille.
La région de Marseille. Et puis une école médiane, qui serait la Normandie et Rouen, où les bleus de Rouen sont effectivement tout à fait célèbres.
Et à Vernevers, ils
ne
sont pas
venus. Ah, Nevers, tiens, un quatrième joyau à la couronne. Nevers, allons-y. Abondance de biens. Bon.
C'est le bleu qui
est très bien.
Craignez mon toit, alors là, encore. Vous avez beaucoup de choses bleues comme ça en craignez mon trop? Ça existe, le bleu au crayon trop.
Si, ouais.
Ça existe. Oui, ça existe. Mais peut-être, je ne sais pas si cette époque. Enfin, on va voir. On va ramasser les copies et on va voir ce qu'il en est.
Qui a gagné ?
Moustier.
Moustier Sainte-Marie. Nous appelons bien près de Marseille. Moustier Sainte-Marie, vous savez, c'est ce charmant village, hein, mais qui a connu au XVIIe siècle, il a été céramique extraordinaire. Hein, notamment dans la première moitié du XVIIIe siècle. Et ça, c'est très typique de Moustier-Sainte-Marie. Et ça peut être polychrome aussi, on verra certainement dans ces séances. Donc voilà, une pièce très très typique. Hein. Alors, on apprendra peut-être aussi au cours de cette séance à déterminer les ateliers dans les grands centres, hein, parce qu'il y a différents ateliers. Et on arrive assez bien à les reconnaître au bout d'un moment. On va peut-être pas aller vers ça tout de suite, hein, mais... Peut-être qu'on aura le temps de le faire dans ces séances. En tout cas, voilà une pièce moustérienne, donc moustier tout à fait typique, un décor labyrinthe du début du XVIIIe siècle, une faïence à décor de grand feu. En quelquefois, pour être complet, on peut mettre faïence à décor de grand feu monochrome. Hein. C'est à pure couleur, c'est polychrome. Bien.
Une cruche,
oui. Une cruche ou un pichet, finalement. Mais cruche, là, va peut-être mieux encore que pichet. Moi, j'ai vu les deux pour ce genre de pièce. Pichet va bien aussi. Donc, une cruche ou un pichet. Une petite idée du décor. Est-ce qu'on peut le caractériser ? Peut-être.
Il y a une tête de personnage.
Oui. Oui, au niveau du boulot, il y a effectivement une tête de personnage.
Avec
une
barbe.
Oui, barbu. Oui, il y a une espèce de médaillon avec un arbre.
Oui, avec des décors de feuillage qui font un truc solaire.
Oui, c'est ça, une sorte d'élément solaire, de truc solaire, comme vous dites. C'est difficile de dire autrement, je crois. Avec un arbre au milieu, oui.
Ça fait plus oriental.
Ah, il y a un petit côté oriental.
Oui, oui.
Mais
méditerranéen.
En tout cas, c'est pas vernissé, c'est vernissé aussi.
Ah oui, il y a une glaçure. Hein. Pardon.
Il y a des dessins en relief.
Il y a des décors en relief, oui. Des décors en relief qui sont d'ailleurs obtenus, je crois, avec deux techniques particulières. Lesquelles, à votre avis ?
Il y a de l'appliqué.
Il y a de la.
Il y a des choses qui sont appliquées.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voyez comme élément appliqué ? Comme une technique que vous évoquiez tout à l'heure. Hein.
Les feuilles.
Voilà, par exemple, je pense que les feuilles sont des éléments appliqués qui ont été faits, je pense, dans des petits moules. Hein.
Ouais.
Et pouf, pouf, on en a fait, puis on les a collés sur le vase pour faire le truc en forme de soleil. Hein. Voilà. Donc il y a effectivement des décors, des petites feuilles appliquées, faites à part et appliquées, tout comme l'anse, bien sûr. Hein. Et puis, quoi d'autre ?
Creuser,
peut-être un peu creuser, effectivement, oui. La barbe a peut-être été un peu, oui. Alors, simplement pour creuser, il a fallu quand même mettre un peu de matière avant. Hein. Donc, ça fait du bruit dessus. Oui, alors, il y a effectivement des incisions qui ont été faites, notamment pour la barbe, vous avez raison, mais ce n'est pas dans le corps du pichet lui-même, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, mais est-ce qu'on a émaillé avant de coller les éléments ?
Normalement, on a collé les éléments, on a émaillé après, parce que les éléments sont émaillés.
Ah oui,
il y a encore les coulures.
En fait, ce que je pense, c'est qu'un certain nombre des décors, par exemple le tronc de l'arbre, la forme circulaire, c'est ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler de la barbotine, c'est-à-dire c'est un argile, si vous voulez, assez léger, mais, voilà, assez liquide, mais qui tient quand même. Qui tient quand même. Donc, c'est ça, une pâte un peu liquide que l'on peut appliquer.
Ouais.
Et on peut utiliser, vous savez, ce qu'on appelle en pâtisserie une poche à douille. Vous voyez ce que c'est, hein. Vous savez, on met de la truc dedans, on Et pour la pâtisserie, c'est formidable. Ben, pour la céramique aussi. Hein. Donc je pense que c'est un peu l'équivalent, mais de la barbotine, la nature, la poche à dos.
Oui, qui a été rapportée dessus.
Voilà, c'est rapporté par-dessus.
Et après, ça a été retravaillé.
Alors là, pour ces espèces de bourrelets qui forment ce soleil, là, ben, le gars a fait, n'est-ce pas, son cercle. Hein. Par contre, pour la barbe, il a dû faire une sorte de pâté, si vous voulez, de barbotine. Et puis après, il l'a ciselé avec des instruments.
Je ne pense pas que les feuilles, c'est pareil aussi.
Je crois qu'elles sont tellement toutes pareilles. Et elles ont quand même un peu d'épaisseur. Hein. Elles sont vraiment toutes pareilles. On a vraiment l'impression d'une matrice qui a été utilisée, que l'on a. J'ai vraiment cette impression-là.
C'est comme les petites fleurs, là.
Oui, ces petites rosettes aussi, que vous voyez là. Et on voit quand même une sorte de halo tout autour. Or, c'est très fin. Hein. Je pense que ça fait quelques millimètres d'épaisseur. Hein. C'est pas des... des gros reliefs appliqués. Je crois que c'est des tout petits reliefs appliqués qui sont collés, en quelque sorte, avant cuisson, hein, avant cuisson de l'émail, hein, sur la pièce. Au niveau de la matière, c'est quoi la base de cette...
C'est du grès.
Du grès, absolument. C'est du grès. C'est-à-dire que là, on est devant un type d'argile particulier qu'on appelle le grès, qui est un argile, alors je ne suis pas géologue, hein, mais qui est, je crois, très marneux, qui est un argile un peu particulier, qu'on appelle donc le grès. Pardon ?
Sableux le grès.
Voilà. Qui donne donc une matière spécifique et particulière, hein, un peu gris, vert, ça dépend des types de grès. Hein, voilà. Alors, chose amusante, on pouvait également, pour donner à l'émail cette espèce d'éclat un peu particulier, on pouvait ajouter du sel. On appelait ça du grès au sel. C'est amusant parce que c'est un côté culinaire. Une date ? 19e ? C'est ancien. Et un lieu, alors vous pensiez, madame, à des pièces plutôt peut-être un peu orientales.
Donc
vous pensiez orientales ?
À l'Espagne, peut-être.
Ah oui, Espagne, oui. Oui, c'est vrai que on a. Faut pas oublier que beaucoup de ces techniques, notamment par exemple la technique de la faïence, hein, viennent de pays d'Orient, hein, notamment du Proche-Orient. Hein. L'origine de la faïence, c'est Bagdad. Hein, ben c'est, voilà. Pardon ? C'est iranienne, peut-être ?
Assyrie.
Bon, on va voir. Hein.
Il y a un décor, il y a une partie bleue quand même.
Oui. Il y a des espèces de giclures bleues. Pour le bleu, je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme matière. Mais en tout cas, ce que vous remarquez, c'est que le bleu, il n'est pas là pour cerner un truc, c'est des espèces de giclées, si vous voulez. On sent que le gars, ou la dame, hein, je ne sais pas, a pris une matière, sans doute d'ailleurs d'origine métallique, hein, dans un vase, il floue qu'il a, vous savez, comme on fait de l'action painting, là, avec un. Il a envoyé des gouttes sur la pièce, quoi. Il n'est pas de cerner en bleu telle ou telle chose. Alors, c'est allemand. C'est allemand. Ça date du XVIe siècle. Et donc, c'est du grès au sel. Vous savez, vous avez peut-être en tête, je suis persuadé que vous avez tous les ans la fête de la bière de Munich. Hein. Vous avez peut-être en tête, vous savez, ces shots de bière en grès, un peu roux comme ça. Voilà. C'est ça, c'est le même genre de choses. Si vous voulez. Voilà. Alors, il y a des pièces en grès qui sont beaucoup plus blanches que ça, qui ne sont pas d'ailleurs pas forcément couvertes aussi d'une glaçure de ce type. Voilà, mais voilà une pièce assez typique de l'Allemagne à cette période.
C'est décoré,
hein ? Oui. Même un peu pour court, hein. Alors d'abord, on va commencer. Vous qualifieriez ça comme objet, vous diriez quoi que c'est quoi ?
Un vase.
Un vase. On se demande où il faut regarder, mais c'est un vase. Un vase. Bon, au niveau du décor, je crois que c'est assez clair. Hein. Voilà, c'est un décor rapporté. Alors là, vous avez des quantités de fleurettes et puis des oiseaux. Hein. Le décor est rapporté sur la pièce de vase qui est un pièce de vase qui est un vase. Hein. Donc il y a des quantités de ciment apportées. C'est donc assez virtuose. Quelle technique ?
Porcelaine.
Ça, c'est de la porcelaine. Alors, vous allez me dire comment on reconnaît la porcelaine à la faïence.
C'est beaucoup plus fin, oui.
Voilà, c'est beaucoup plus fin. La porcelaine, c'est... Pardon ? Oui, là, c'est en fuite. Souvent, alors là, c'est un peu moins évident, mais souvent, on sait, à travers la porcelaine, si on la met devant le soleil... La lumière passe à travers. Hein. La porcelaine, c'est translucide, c'est très léger aussi. Hein.
C'est solide.
C'est solide et léger.
On peut mettre un décor plus tarabiscoté.
Oui, absolument. Oui. Donc, et alors, c'est fait à partir de quoi, la porcelaine ?
Du kaolin.
C'est ça la grande différence entre la porcelaine et la faïence. La faïence, c'est de l'argile. La porcelaine, c'est du kaolin. Hein. Alors, avec des proportions plus ou moins importantes. Hein. C'est-à-dire que vous mettez soit beaucoup de kaolin, soit moins. Dans ce cas-là, vous mélangez avec d'autres types de terre. Ce qui fait que la porcelaine est plus ou moins dure, plus ou moins tendre. S'il y a beaucoup de kaolin, c'est une porcelaine dure. S'il y a moins de kaolin, c'est une porcelaine tendre. Et vous le savez parce que, peut-être pas à l'ongle, hein, mais avec un stylet, par exemple, métallique, vous pouvez rayer la porcelaine tendre, pas la porcelaine dure. Vous avez une idée de la date et du lieu ?
Est-ce que c'est obligatoirement plus tardif, puisque
la porcelaine est inventée
relativement tard.
Alors, quand vous dites inventée relativement tard,
en France.
Voilà. Alors, en France,
en Europe.
Voilà, hein. Donc, la porcelaine en Europe, effectivement, est arrivée assez tard. C'est partout pareil dans le monde ?
Voilà.
En Chine, effectivement, la porcelaine est une invention chinoise. Alors, après, on a pu. Enfin voilà, mais c'est grosso modo la Chine qui invente la porcelaine. Ça arrive en Europe à quelle période ? 17e, 1750 ? 17-18e ?
17,
Ouais. Disons que ce qui s'est passé, c'est que très tôt, hein, on a importé de Chine des pièces en porcelaine, et les Européens se sont dit, c'est drôlement chouette, ce serait bien qu'on puisse faire de la porcelaine comme ça chez nous. Hein. Le problème, c'est que la technique n'était pas connue en Occident. Donc longtemps, on a un peu tiré la langue en Europe, on se dit, oh là là, comme c'est beau, qu'est-ce que ce serait bien qu'on puisse le faire. Les Chinois n'ont jamais donné leur secret. Ce qui fait qu'on a finalement en Europe trouvé la solution, c'est en Allemagne, hein, fin 17, début 18e, en gros, hein, que la solution a été trouvée. Alors, il y a eu des tâtonnements, des proto-porcelaines, etc. Mais enfin, c'est à partir vraiment du début du 18e qu'on fait des porcelaines, d'abord en Allemagne, ensuite un peu partout, en France en particulier. Quel est le grand lieu de la porcelaine en France au 18e? Alors, Limoges, peut-être plutôt 19e. Hein. 18e, c'est Sèvres. Sèvres, c'est le grand lieu de porcelaine, une manufacture royale qui a été vraiment, qui était là pour damer le pion à la porcelaine allemande d'ailleurs. Alors ça, vous verriez ça fait quand et par qui?
Par qui?
Disons par quel, dans quel pays, pardon?
Peut-être les Chinois pour une commande.
Donc une pièce chinoise pour une commande occidentale, c'est bien?
Occidentale, oui.
C'est une possibilité. Non.
Ou alors une porcelaine de Saxe.
Mmh. Allemagne, 19e plutôt.
Oui, parce que Meissen, là, c'est d'où vous y avez allusion, hein, c'est en Saxe, justement, hein, près de Dresde. Hein. Donc c'est une porcelaine, donc soit chinoise pour vous, soit.
Non,
pas vous.
Il y a eu
des commandes en Chine. Ah oui, il y a eu des commandes en Chine, vous avez raison.
Moi, je verrais bien ça.
C'est d'ailleurs une compagnie qui s'appelait la Compagnie des Indes, hein, qui commandait en Orient. Les Indes, ça le don large au 18e. Hein. Et donc, en Chine, des pièces pour l'Occident. Donc, les Chinois fabriquaient des pièces pour l'exportation. Qui ne se vendaient pas en Chine, hein, qui se vendaient, on faisait venir en bateau. Hein, le commerce international, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, on faisait en Chine, au 18e siècle, des pièces qui, via la Compagnie des Indes, venaient en Occident. Donc, on commandait des pièces à l'occidental en Chine. C'est marrant, ça. Un très beau musée en France là-dessus, à Port-Louis, qui nous a accompagné des Indes, qui montre bien ça. Alors là, oui, donc, certains pensent Orient, d'autres pensent plutôt Allemagne, d'autres pensent un peu les deux, d'ailleurs.
Je pense pas.
Pardon ?
Allemagne.
Allemagne. Eh bien, on ramasse la copie.
C'est
allemand, c'est Meissen. Hein. Bon, c'est une pièce assez... La porcelaine permet des choses un peu coco, comme ça. Hein. Bien.
Mais quelle est la technique aussi pour rajouter tous ces décors? Parce qu'il y a une multitude de petites fleurs.
C'est des applications. Je connais moins bien la technique de la porcelaine que la faïence, hein, mais je pense que c'est le même genre de choses. Je pense que tu colles avec...
La barbotine
au kaolin, tu vois, sur ta pièce.
Oui, parce que là, il y a du travail.
Parce que je pense qu'on est obligé d'avoir la même texture que la pièce de base. Quoi. Ah ben c'est un boulot fou. Hein. Donc ce genre de pièces étaient des pièces on a le droit de pas adorer d'ailleurs. Hein. Après c'est un problème de goût, mais c'est pas le problème. On ne parle pas de goût ici. Voilà, c'est des pièces de luxe qui valent cher, qui sont à la fois solides et fragiles. Voilà. Un boulot extraordinaire. Hein.
Ah bah oui.
Ouais. Alors, d'abord, c'est quoi?
Un objet
décoratif. Donc, on met ça sur une commode chez soi. Ça vous va, ça? Très bien. Donc, un objet décoratif, un musicien, très bien.
Qui est assis.
Assis. OK.
Habillé un peu style fin du Moyen-Âge.
Moyen-Âge, oui.
Donc, ce serait quelque chose de la fin du Moyen-Âge.
Chapeau,
ok. Quand vous dites fin du
Renaissance ou...
Renaissance, donc on est 15-16e, quoi.
Oui, c'est ça.
Ok, 15-16e. Ouais. Technique.
C'est du grès ou de la terre?
Alors, c'est évidemment de la terre cuite. Le grès, c'est de la terre cuite, sauf que c'est du grès. Hein.
Ouais.
Donc, terre cuite, hein, effectivement, de la terre cuite glacurée. En fait, c'est comme notre pichette tout à l'heure.
Ouais.
C'est la même technique, hein. Donc on a là un objet décoratif réalisé où?
En Allemagne.
en Allemagne, réalisé en Allemagne, fin 15, début 16e.
Mais pour la création, c'est-à-dire, ça n'a pas été tourné, ça a été
sculpté.
Alors là, effectivement, c'est Dieu la Terre. Ça, alors, sculpté, on ne peut pas trop dire sculpté, parce que la Terre ne se sculpte pas, elle se modèle. C'est du modelage. Alors que la sculpture, c'est quand on enlève sur la Terre. Donc c'est du modelage. Et voilà.
Oui, ce serait bien de connaître la Terre.
C'est grand comment ?
Ah, quand même.
C'est grand. À peu près 1m2 haut. C'est pas
difficile. C'est difficile de faire sécher la Terre à cœur.
C'est pas si simple.
C'est aussi ça,
ça demande. Alors évidemment, d'abord, c'est creux à l'intérieur.
Oui, voilà.
Il faut des trous, des vents. C'est notamment souvent à l'arrière ou au-dessus, il y a les trous des vents qui permettent à la pièce de respirer quand on la fait cuire et pas d'exploser. Parce que si vous enfermez l'humidité, évidemment, dans le four, paf, ça va claquer. Donc il faut des trous des vents pour que l'humidité ait des solutions pour sortir.
Il y a plein de pièces rapportées dessus.
Il y a beaucoup de pièces rapportées. Donc ça c'est des pièces virtuoses, ça ne court pas les rues. Donc un objet décoratif. Oui, qu'est-ce qu'on en fait ? Des fleurs ? Non, c'est pour faire joli. On a la télé et puis ça, quoi.
Non. On peut le mettre sur,
oui. Mais sur la télé.
Oui, moi maintenant,
c'est un ornement. C'est un ornement.
Ah, idée intéressante.
Ou un château.
Un ornement de bâtiment. Et à quel endroit d'un bâtiment ?
Ça doit être placé dans une niche, non ?
Ça peut être placé dans une niche.
Oui, ça, oui.
Il y a peut-être un autre endroit, j'entendais un truc à dire.
Une crèche.
Pardon, une crèche. C'est vrai qu'on a des... Ça existe aussi. Alors là, ça fait des santons...
Oui. Une grande crèche.
Une grande crèche.
Ça peut être sur un toit.
Ça peut être sur un toit.
Ah oui,
ça peut être sur un toit, parce qu'il y a certains toits où...
On appelle ça comment ces trucs qui sont sur les toits ?
Un épi de fêtage.
Voilà. C'est un épi de fêtage.
Ah, c'est ça ?
Son état.
Ah, ouais.
C'est un épi de fêtage. Donc, quelque chose qui était au faîte du toit. Ce que vous disiez sur le toit, au niveau de l'arête du toit, souvent on met des tuiles fêtières, au faîte du toit. Et au bout, quand on arrive au niveau du pignon, là où c'est-à-dire toutes les liaisons se font, il faut mettre, généralement, on peut mettre un aimant métallique, qui est d'ailleurs aussi un épi de fêtage métallique, ou alors on met un épi de fêtage en céramique. Eh bien, c'est un épi de fêtage. Alors, vous voyez que là, ça a été fait dans le Beauvaisis. On est en fait au début du XVIIe. C'est un peu moins tôt qu'on imagine. Mais c'est vrai que ce genre de vêtements est un vêtement qu'on peut trouver... facilement de la deuxième moitié du XVIe siècle, mais ces épis de fêtage qui étaient faits dans le Beauvaisis, qui est un territoire assez rustique, si vous voulez. Ce genre de mode-là pouvait se poursuivre encore au début du XVIIe. Et le Beauvaisis est un lieu qui a produit énormément de ces terres cuites glacurées, rustiques. Le Beauvaisis est très connu pour ça. Bien. Un plat, ça va. Le décor, c'est pas trop compliqué. Floral. Et
polychrome.
Ouais, c'est donc un décor polychrome. Et la technique, c'est quoi ?
Petit feu.
Oui, mais quoi, petit feu ?
Faïence.
Alors, voilà. Faïence, parce que petit feu, c'est bien. Il faut quand même dire si c'est de la terre cuite, du grès. Donc c'est de la faïence. Donc là, vous voyez, vous avez trouvé tout de suite. C'est de la faïence de petit feu. C'est-à-dire que vous avez des nuances importantes au niveau des roses, des jaunes, des verts. Alors moi, je vois bien de près, mais on voit qu'au niveau des verts, c'est pas un vert uni, comme notre bleu. Vous savez, le moustier tout à l'heure qui était un bleu. Alors c'est magnifique, mais un bleu uni, si vous voulez. Là, on a des nuances de vert étonnantes. Voilà. On est vraiment devant une pièce de petit feu. Donc vous voyez que petit à petit, on s'y fait.
Marseille.
Et là, c'est Marseille.
C'est un biscuit.
C'est un biscuit.
Ah,
Un biscuit. Un biscuit de quoi?
Porcelaine.
De porcelaine.
De porcelaine.
C'est-à-dire que ça, vous vous rappelez, hein, la grande différence entre la faïence et le porcelaine, la faïence c'est de l'argile, la porcelaine c'est du kaolin, avec des proportions plus ou moins grandes, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est un biscuit de porcelaine. D'accord, hein. C'est-à-dire que la porcelaine, vous savez, tout à l'heure on a vu une pièce de porcelaine, hein, mais qui avait été, après le biscuit, peinte. En tout cas, on a vu le processus pour la faïence, c'est le même. Sauf que la porcelaine, c'était à partir, encore une fois, du kaolin. Donc si vous ne peignez pas votre pièce, c'est tout ce qu'on appelle un biscuit, c'est ce qui sort après la première cuisson. D'accord ?
Quelle est la taille ?
C'est bon, ça.
À peu près ça. Ça, pour le coup, c'est quoi ? D'abord, ça représente quoi ?
Vénus.
Vénus.
Elle est toute nue.
Ah, toutes les nudités ne sont peut-être pas Vénus.
Non, mais cette coiffure à l'antique.
Ah oui. Oui, on est visiblement dans quelque chose qui évoque l'antiquité. Hein.
Un petit amour derrière.
Mais encore une histoire amoureuse, ça nous change. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ce serait Vénus, et puis devant.
Une femme
qui se confie.
C'est une femme qui se confie à Vénus, de ses peines amoureuses. Ça vous va, ça?
Non.
Ça vous va pas? Pas trop. Bah, vous avez raison.
C'est un monsieur qui est devant
vous. Hein, c'est peut-être plutôt un monsieur. Il a une espèce de robe ou de toge, mais si on est dans l'Antiquité, il porte pas de
gilet. Quand on regarde les pieds,
c'est un soldat. Oui, aussi. C'est un homme et une dame toute nue. Bon.
Il a sculpté cette dame.
Voilà. C'est qui alors?
Le nom m'échappe.
Pardon? Oui, ça vous dit. Oui, c'est effectivement ça. Le monsieur qui est là, il a sculpté la dame.
Admiration.
Voilà. Et qu'est-ce qui se passe?
Devant son œuvre.
C'est ça. C'est ça.
C'est Pygmalion.
Vous savez, quelquefois on dit c'est son Pygmalion. Ça, c'est une histoire qui vient de la mythologie, des métamorphoses de vide. On dit qu'un jour, un sculpteur remarquable, c'était Pygmalion, a sculpté une femme nue, mais tellement bien, c'était tellement beau qu'il en est tombé amoureux. Le problème, c'est que tomber amoureux d'une statue, c'est bien, enfin, il n'y a pas beaucoup de répondants. Ce qui fait qu'à un moment, les dieux ont donc décidé de transformer la statue en vraie femme. Et c'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire que la statue qu'il a réglée, grâce peut-être à l'entremise de l'amour, n'est-ce pas, devient un être de chair. C'est Pygmalion qui est ici représenté.
C'est modelé, ça, ou coulé?
Ça, c'est moulé.
Moulé.
C'est moulé. Alors, Salomé Pygmalion est galaté. Hein. Galaté, c'est... Et donc c'est un biscuit de porcelaine, c'est fait à Sèvres, hein, pas très étonnant, le grand lieu de la porcelaine, hein. Et c'est fait d'après Falconet. Hein. Falconet, si vous voulez, c'est un artiste qui a d'ailleurs été directeur de l'Université de Sèvres, il était sculpteur, et donc lui avait fait une sorte d'une terre cuite, si vous voulez, à l'origine, hein, et la terre cuite a été moulée pour qu'elle soit ensuite... si vous voulez, décliné en porcelaine. Donc ce genre de truc pouvait se vendre bien. Quoi. Oui. D'accord ? C'est bon pour vous ?
Yes. Ah, c'est un bichet à
bière.
Ça ressemble beaucoup à un bichet à bière.
Peut-être un bichet à bière.
Ou à vin.
Ou à vin. C'est du grès, absolument. Ça, c'est du grès. Je crois que maintenant, on le connaît bien. Hein. Et donc, à votre avis, quelle origine?
Bah,
il y a de bonnes chances, soit. Alors, on appelle ça volontiers un pichet ou une cruche couverte. Hein, parce que, bah, il y a un couvercle. Quoi. Alors, le couvercle, des fois, c'est le cas là, donc c'est Allemagne, on est d'accord. C'est du 16e, enfin, 16e ou 17e. Hein, j'aurais dû mettre...
Hein. Ah, il faut encore que je corrige.
Oui, enfin là c'est moins faux que tout à l'heure, parce qu'on est, mais vous pouvez rajouter 16e, 17e siècle. Voilà, on pourrait effectivement rajouter ça. Et c'est une pièce qui vous montre le couvercle qui a été rapporté en métal. C'est souvent en étain.
En étain.
Donc ça, c'est une chose qu'il faut évoquer aussi. Quelquefois, la céramique peut, les pièces céramiques peuvent être enrichies d'éléments rapportés de ce genre. Voilà. Là, on peut dire une aiguière. Vous voyez, donc une aiguière, c'est quand même, c'est plus ouvert. Et c'est un peu plus chouette qu'une cruche, quoi. Une couche où appuyer, bon, c'est la base du truc. Quoi. Là, on est dans quelque chose.
Un décor à la
Bérin. Et c'est un décor à la Bérin. C'est un décor à la Bérin.
C'est de la faïence.
Avec des arbres.
De la faïence, alors voilà, il faut quand même. Grand feu, petit feu.
Grand feu.
Grand feu. Donc, un décor de grand feu monochrome. Ok. Une aiguière, un décor à la Bérin, vous avez raison.
Ça ressemble beaucoup au moustier de tout à l'heure.
Ça ressemble beaucoup au moustier de tout à l'heure.
Oui.
Donc ce serait moustier. Ah, pourquoi pas.
Avec un visage, la tête est rapportée.
La tête est rapportée, c'est une sorte de mascaron rapporté, donc moulé, collé.
Oui, mais c'est personnalisé par l'écu.
Personnalisé par l'écu. De toute façon, voilà, après on peut peindre ce que l'on veut, hein, mais effectivement, là c'est visiblement une commande, hein, c'est personnalisé par l'écu. Oh, décidément. Voilà. Bien. Une date
17e.
Et donc pourquoi pas moustier?
Début 17e.
Début 17e. D'autres idées que moustier ou moustier, ça vous va?
La tête ressemble à un indien.
C'est vrai. C'est vrai.
Donc on est arrivé, avec des plumes.
Oui, là. Alors les Indiens ont été très très à la mode dans les arts décoratifs au 16e et encore au 17e.
Oui.
Mais notamment au 16e parce qu'on les découvre en Amérique avec ce truc bizarre, ils ont des plumes sur la tête, ça franchement c'est quand même curieux. Hein. Pour nous autres Européens qui avions au mieux vaguement une plume ou deux sur les Indiens, c'est carrément des coiffes. Hein. Et ça, c'est la plumasserie est une affaire américaine. Hein. Donc ça a beaucoup, beaucoup surpris les Européens qui ont présenté des Indiens partout. Alors, pour le coup, c'est rond. Alors, c'est un décor à la Bérin, mais Moustier n'a pas eu le privilège des décors à la Bérin. Hein. D'autres centres céramiques en ont produit. Donc là, ce qu'on appelle une aiguière casque, parce qu'effectivement, si vous voulez la retourner, ça ressemble un peu à un casque. Et d'où le nom d'aiguière casque. C'est une faïence à décor de grand feu, monochrome. Hein. Et c'est donc. Alors, la différence de Rouen et de Moustier, souvent, parce que c'est plus compliqué que ça, mais généralement, les décors bleus de Moustier sont des décors plus évanescents, si vous voulez, plus légers. Hein. Rouen, c'est du bleu de chez bleu. Hein. Moustier, c'est un bleu un peu plus léger. Plus doux, si vous voulez. Voilà. Alors, on termine cette première partie avec une ou deux choses encore.
Une assiette,
ça va.
Avec un médaillon dans le bassin.
Avec un médaillon dans le bassin. Et un petit décor sur le mari.
Mais décor à l'antique.
Un décor à l'antique. Avec des sorte de faux camé.
Oui.
Tout ça est peint quand même. Hein.
Oui.
Ça, quelquefois, on ne s'en rend pas compte. Hein. Vous avez là l'équivalent d'une peinture.
Oui, c'est
on ne s'en rend pas compte. Vous avez l'impression, parce qu'évidemment, aujourd'hui, nos assiettes et autres, c'est du delcatomanie. Hein.
Oui.
Alors, c'est plus du tout pareil. Hein. Sauf évidemment quand vous allez dans des centres d'art. Ou... Enfin, le gros de ce qu'on a aujourd'hui, c'est industriel. Etc. Là, c'est peint.
Oui.
Entièrement à la main.
Le travail.
C'est un boulot fou. Alors, surtout ça, d'ailleurs.
Elle évolue.
Ouais.
Ça fait très empire avec ces décors.
Oui, c'est ce que ça fait empire. Donc, vous mettriez ça au...
Sous Napoléon Ier. À cause du décor à l'antique.
À cause du décor à l'antique.
Ce genre de camé.
Les feuilles de laurier.
Et les feuilles de laurier.
Donc le laurier, ça. Ça a été fait. Donc ce serait début 19e.
Il y a une couronne aussi.
Oui, il y a une couronne.
Mais une couronne fermée.
Oui.
Couronne
fermée.
Oui. Et puis la hache, une initiale, ça.
Il y a une sorte d'initiale
qui
fait penser à un E, ce qui m'étonne un peu, mais bon.
C'était un E, un deux, un deux romain.
Mais a l'air d'avoir un H dedans, ou bien...
Oui, deux romains.
Voilà.
Alors,
et c'est fait, donc ce serait début 19e, et c'est fait où ça? Sèvres. C'est quoi comme matière, comme technique? De la poursuite.
On est là.
Alors, on ramasse les copies. Sèvres, 18e. C'est le service de Catherine II. Alors, une assiette, ça date de la fin du 18e. On est près du début du 19e. Hein. Cette pièce Kouyala a été faite dans le cadre d'un service pour Catherine II, qui comprenait, je crois, 800 pièces. Là, vous n'en avez qu'une. Ça vous donne une idée. Hein. Et pour cette commande, on a dû à Sèvres monopoliser pendant 3 ans. Hein. Quelque chose comme une équipe de 30-40 personnes qui ne faisaient que ça pendant 3 ans.
Alors,
ce que je pense, je suis pas. Ce que je crois que Catherine se dit en russe et Katharina.
Oui, exactement.
Je crois. Hein. Parce que je me suis demandé, Catherine II, on a un. Pourquoi ? Or, je pense que c'est pour ça. Mais je ne suis pas russophone. Je suis moyennement russophile actuellement. J'ai l'impression que chacun connaîtra. Enfin, du moins russophile pour les élites. Parce qu'autrement, c'est tout autre chose. Mais voilà, donc je suppose que c'est ça. Mais voilà, je ne suis pas certain. Extraordinaire, quand même. C'est vraiment étonnant. Alors, une dernière pièce, simplement, pour finir cette première partie sur les techniques.
La terre cuite.
Voilà, là, vous avez effectivement une terre cuite, tout simplement. C'est de la terre.
C'est du bois.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est un faune.
C'est si le...
C'est silène, ouais.
C'est pas ciré un peu aussi.
Alors après, on peut, hein. On peut effectivement passer une couche de cire par-dessus. Voilà, ça permet de patiner un peu la terre cuite. C'est faisable. Mais là, c'est de la terre cuite. D'accord. Voilà. Je vous montre quand même le petit cartel, hein. C'est-à-dire toujours. Alors, c'est toujours Sèvres. Hein. Sèvres, la grande affaire de Sèvres, c'est la porcelaine. Hein. Oui. Pas que. Hein. Après tout, là, c'est la même technique que pour le biscuit porcelaine, sauf que c'est la terre cuite.
Oui. Voilà. C'est toujours Falconet.
Et c'est toujours Falconet, donc, qui a été directeur au 18e de là. Bien. Alors, voilà, cette première partie avait pour but de nous familiariser un peu avec les différentes techniques, le vocabulaire. Je crois qu'on commence à un petit peu voir comment tout ça se passe. J'avais envie, dans un deuxième temps, de nous familiariser un peu avec la question des formes, et quasi exclusivement d'ailleurs, dans le domaine de ce qu'on appelle la plâtrie, c'est-à-dire la céramique utilitaire et alimentaire. Donc là, j'ai préparé une douzaine de diapositives avec des pièces de forme un peu particulières. Vous savez, ce qu'on appelle les pièces de forme, c'est... En gros, pas les assiettes et les plats, parce que je pense que chacun parmi nous sait ce que c'est qu'un plat ou une assiette. Ça va, on est capable de le reconnaître. Mais il y a quelquefois des pièces dites de forme, c'est-à-dire qui sont autre chose que des plats et des assiettes, qui sont un peu particulières et qui correspondent à des fonctions différentes, et donc à un vocabulaire pour les désigner différents. C'est ça que je voulais vous présenter là, parce que là aussi, ça nous sera bien utile dans les séances qui viennent.
Une saucière, ça.
Soupière, saucière.
Ça dépend de la taille.
Ça dépend de la taille.
Grand comment ?
Voilà, ça dépend de la taille.
Donc, c'est une soupière.
Soupière.
Ah bah oui.
Saucière.
Non, soupière.
Monsieur aime la sauce. Ah, légumier.
Ça dépend du nombre de
légumes. Ça dépend de ça.
Et comment vous appelleriez ? Parce qu'il y a ça, mais il y a ça.
Il y a le plat de la
sauce.
Ouais,
oui.
Oui, mais quoi ?
Ah, ça a un nom.
Oui.
Donc, une soupière, une saucière, sur un plat de présentation.
Oui, non, ça ne s'appelle pas un plat de présentation.
Pardon ?
Il devrait y avoir un nom spécifique, mais on ne connaît pas.
C'est pour poser la louche, pour pas que ça salisse la table.
Ah, voilà.
Comme ça, ça ne s'aide pas.
Non, c'est pour les couler.
Technique,
faïence.
Et faïence de quel type?
Petit feu.
Fait où et quand?
Faïence.
18e. Ou ça reste ouvert.
En France, à Rive-Provence.
Marseille.
C'est Marseille.
Une terrine.
C'est plutôt ce qu'on appelle effectivement une terrine. Une terrine. Sous pierre, d'abord il faudra un trou pour mettre la louche à l'intérieur. Hein. Alors ça veut dire là, il y a un autre côté, mais là on voit aucun trou correspondant à ça. Et ce genre, et alors avec, on appelle ça généralement le plateau, tout simplement. On peut appeler ça un plat de présentation aussi. Hein, vous l'aviez dit d'ailleurs tout à l'heure. C'est une autre possibilité. C'est grand, hein. C'est pas un petit truc comme ça. Hein. Ah ben nous sommes là devant des pièces, c'est quand même des pièces, vous voyez, hein, c'est du petit feu, hein, c'est assez virtuose. Ça, quand même.
Moi,
je
n'oserais jamais faire une terrine.
Ah, c'est quelque chose. Ça.
Ah ouais.
Ça représente un bal.
C'est pour un
baltrap.
Ça ferait cher du baltrap.
Et c'est pas juste pour être décoratif.
C'est décoratif, ça. Alors, c'est décoratif, mais c'est du décoratif qui sert quand même à quelque chose.
On dirait un bateau.
Ah. On dirait un bateau. C'est un bateau. C'est une nef avec une voile. On a des gréements.
C'est incroyable.
Et c'est en céramique. Hein. Entière. Quel genre de quelle technique ?
Porcelaine.
Porcelaine. Parce que vous remarquez quand même que tout ça, c'est de la porcelaine à jourer. Hein. C'est une grille en porcelaine.
Ah, c'est un pique-fleur.
Pique-fleur.
Bouquetière. Un pot-pourri, c'est pour mettre des...
C'est un pot-pourri.
Oui, les senteurs, c'est vraiment...
Voilà, un pot-pourri. Vous mettez donc à l'intérieur des pétales de rose, etc. Et les pétales pourrissent doucement et diffusent un parfum. C'est un pot-pourri. Alors ça, c'est une pièce extraordinaire, hein, qui avait été, je crois, faite pour Marie-Antoinette, par Sèvres. Par Marie-Antoinette ou Madame de Pompadour, je ne sais plus. Marie-Antoinette, je crois que c'était...
Il y a des ah bref,
pour une... Oui, c'est peut-être plutôt avant, à l'époque de Louis XV. Enfin bref, une pièce tout à fait extraordinaire, un pot-pourri dit à vaisseau. Une très très belle pièce de Sèvres. Ça, c'est des choses virtuoses. Et j'insiste sur le fait que ce que vous voyez là, hein, cette espèce de petite scène orientale, chinoise, donc elle est entièrement peinte à la main, décidément. On est là.
Des couleurs très harmonisées.
Oui, oui. Ouais, ouais. Donc ça, c'est vraiment le grand art de Sèvres. On peut trouver ça un peu too much, mais c'est quand même étonnant.
Ça, c'est pour mettre les perruques.
Exact. Ce sont des porte-perruques.
Ah
oui, au XVIIe siècle, c'est bien nécessaire. Hein.
Oui,
alors, hein. Donc ce sont des porte-perruques. Quelle est la matière, la technique ?
Faïence.
De quel genre ?
Le verre.
Le verre, pourquoi pas ? Et petit feu, grand feu ?
Petit feu.
Marseille.
On peut hésiter, hein. On peut hésiter parce que vous avez quand même là...